Les 7h47, Léa Salamé, votre invitée ce matin, est président du groupe LREM à l'Assemblée nationale.
Bonjour Christophe Castaner.
Bonjour Léa Salamé.
Merci d'être avec nous ce matin. Dans un discours d'1h30 hier soir, Vladimir Poutine a reconnu l'indépendance des deux républiques séparatistes du Donbass, a ordonné à l'armée russe d'entrer en territoire ukrainien, a menacé les Ukrainiens d'une effusion de sang, les traitant de traîtres, de corrompus, remettant même en cause l'existence même d'une Ukraine, je cite, injustement sortie de l'URSS. Appelez-vous cela une déclaration de guerre du président russe?
Écoutez, je ne sais pas si je vais qualifier cela, mais on voit bien d'actes déclaration de guerre, mais on voit bien que le président Poutine a rompu la totalité des engagements qu'il avait pris. Il a pris des mesures diplomatiques, politiques, juridiques qui vont à l'encontre du droit international et à l'encontre des engagements pris par son pays dans les accords de Minsk ou de la résolution 2022 du Conseil de sécurité. Nous sommes aujourd'hui face à une situation grave et il est évident que nous devons toujours en privilégiant la solution diplomatique, c'est le choix du président français, du président américain, du chancelier allemand, maintenir la pression pour éviter des dérives qui pourraient aller au-delà même des deux États dont Vladimir Poutine a reconnu hier l'indépendance.
Mais ce discours précisément de Vladimir Poutine n'est-il pas une fin de non-recevoir aux efforts diplomatiques d'Emmanuel Macron ?
D'abord, réduire cela à Emmanuel Macron, c'est avoir des visées très nationales. Je pense que nous sommes sur un sujet qui dépasse largement Emmanuel Macron et la situation de la France et qui mobilise Emmanuel Macron comme président de l'Union européenne en exercice aujourd'hui. Mais vous l'avez vu aussi, il a travaillé en cohérence avec l'ensemble des pays concernés, avec le président américain. Et nous voyons bien combien le président Vladimir Poutine est dans une sorte de dérive, dans une dérive nostalgique de la Grande Russie et qu'aujourd'hui nous devons faire face à cela. Mais en privilégiant, je le redis toujours, la solution diplomatique.
Vous dites qu'il est dans une dérive où il est nostalgique de la Grande Russie, mais qu'est-ce qu'on fait face à ça? Il faut des sanctions, disent Emmanuel Macron, Joe Biden ou Olaf Scholz, mais quelles sanctions pour être efficaces? Est-ce qu'il faut stopper Nord Stream 2? Est-ce qu'il faut geler les avoirs des oligarques russes qui sont en dehors des banques russes, qui sont dans les banques occidentales? Qu'est-ce qu'il faut faire concrètement?
Le président américain a déjà, dès hier soir, annoncé un certain nombre de mesures, en particulier sur les deux territoires dont on parle, je pense au Donetsk et à Lugansk, et l'Europe se réunit dès aujourd'hui sous la présidence du président Michel pour arrêter un certain nombre de mesures. Nous devons sur ce sujet travailler sur des mesures européennes ciblées et graduées parce que le risque aussi d'expansion ou d'expansionnisme encore russe peut être d'actualité demain et il nous faudra sur ces sujets avoir des réponses graduées.
C'est-à-dire que les sanctions ne doivent pas être trop violentes là pour les deux républiques parce que vous craignez qu'ensuite il envahisse tout le Donbass, qu'ensuite il fasse une invasion à Kiev et donc vous devez les graduer, c'est ça ?
Il y a évidemment plusieurs options possibles. La diplomatie les étudie. Je ne suis pas aujourd'hui le ministre des Affaires étrangères, je ne vais pas les évoquer. Mais dans effectivement les mesures de rétorsion, il faut que celles-ci puissent être graduées. Il faut qu'elles soient suffisamment fermes et elles seront suffisamment fermes, j'en suis convaincu, pour que le président russe comprenne le risque dans lequel il met son propre pays, au-delà de ces fantasmes expansionnistes. Mais du coup, il nous faut aussi avoir la possibilité de monter en pression sur ce sujet.
Encore une question sur le sujet. En annonçant dans la nuit de dimanche à lundi avoir arraché le principe d'un sommet Poutine-Biden, l'Élysée, Emmanuel Macron a-t-il parlé trop vite? Cette annonce était-elle prématurée?
Elle était la conséquence de l'engagement du président Vladimir Poutine d'accepter effectivement ce sommet. Et donc, il est revenu sur ce sujet dans la journée d'hier. Il n'a prévenu le président français qu'une heure avant l'intervention, même s'il a eu la démarche de le prévenir. Et on voit bien que Vladimir Poutine est dans la gestion de ce dossier un homme solitaire.
Emmanuel Macron a suspendu sa déclaration de candidature à l'élection présidentielle en France, à la crise ukrainienne notamment. On voit bien qu'elle va durer, la crise ukrainienne, peut-être même qu'elle va basculer en guerre. Du coup, Emmanuel Macron doit-il sortir de l'ambiguïté et se déclarer à 47 jours du premier tour de la présidentielle? Il est temps, disent ses opposants, agacés par ce faux suspense.
Écoutez, moi, je pense que le sujet dont on vient de parler, les différents engagements du président français, la question sanitaire aussi qui continue à être au cœur de nos préoccupations et notre engagement, vont bien au-delà du seul sujet de l'agacement de ses opposants. On voit bien qu'effectivement, les Français ne sont pas dans la campagne présidentielle. Je souhaite qu'Emmanuel Macron soit candidat. Il le sera, je le souhaite, assez rapidement. Mais on voit bien que, si on prend ces derniers jours, ces dernières heures, nous avions besoin d'un président de la République totalement à sa charge, celle de président.
Assez rapidement, ça veut dire peut-être cette semaine? ou non ?
Écoutez, je ne vais pas spéculer sur le sujet. Comme vous l'avez dit, tous les calendriers qui sont proposés peuvent être bouleversés par une crise aussi importante que celle dont on vient de parler.
Vous avez l'habitude de répondre ces dernières semaines, vous et tous les marcheurs, entre guillemets, de répondre systématiquement quand on vous dit « mais pourquoi il ne se déclare pas candidat ?» Vous répondez en comparant avec les situations passées, avec Jacques Chirac, avec Nicolas Sarkozy, en disant « eux non plus n'étaient pas pressés de déclarer leur candidature pour un deuxième mandat ». Et c'est vrai, mais tout de même, j'ai quand même regardé les chiffres. Jacques Chirac s'est déclaré 69 jours avant le premier tour. Nicolas Sarkozy, 67 jours avant le premier tour. Aujourd'hui, on a 47 jours du premier tour. Et Emmanuel Macron n'est toujours pas candidat. Si on compare, ça veut dire que Nicolas Sarkozy et Jacques Chirac ont fait 3 semaines au moins de plus de campagne qu'Emmanuel Macron.
Oui. Et je pourrais vous répondre, François Mitterrand, 3 semaines de moins.
Oui, mais on est en cohabitation.
Oui, mais de toute façon, nous ne sommes plus dans le même temps de communication, nous ne sommes plus dans le même temps, dans le même rythme politique. Une chose est sûre, et il y a 5 ans, je faisais la campagne autour d'un candidat qui s'appelait Emmanuel Macron. Les Français étaient, au moment où on se parle, beaucoup plus dans la campagne présidentielle. Mais ça n'était pas le fait du président sortant, François Hollande, qui avait déclaré qu'il ne se représenterait pas. Aujourd'hui, on voit bien que nous sommes en train d'assister à un débat politique qui... J'ai vu que un éditorialiste parlait de campagne Tefal, où il y a une multiplication de thèmes qui sont proposés par les candidats qui n'accrochent pas et qui n'intéressent pas. C'est ça, peut-être, qui doit interroger les candidats.
La faute à qui ?
Oh bah, si vous voulez me faire dire que c'est la faute d'Emmanuel Macron,
non,
je trouve que
ce serait
un tout petit peu réducteur.
Oh
bah, la faute surtout, non pas à qui, mais à quoi ? C'est-à-dire au fait que beaucoup de candidats aujourd'hui ne font une campagne que contre Emmanuel Macron. Mmh. Ils se trompent dans l'essence même de ce qu'est l'élection présidentielle. Il faut porter un projet politique pour la France, et la plupart des projets auxquels nous assistons sont des projets soit nostalgiques, soit très conservateurs, voire réactionnaires.
Ma question n'est pas polémique, Christophe Castaner, mais après 2 ans d'un débat démocratique qui a été gelé par le Covid, les Français ne méritent-ils pas une vraie campagne avec des vrais débats sur l'avenir économique, sécuritaire, migratoire de la France, une campagne qui dure un peu plus que 5 semaines et demie?
Mais moi j'ai le sentiment que la vie politique française n'est pas rythmée seulement au rythme des campagnes électorales. Je pense que le président de la République a l'occasion, comme président de la République, de s'exprimer sur les grands enjeux. Quand nous projetons la France sur la question énergétique à 2030, 2035, 2050, avec des échéances qui vont au-delà même du rythme politique, je pense qu'il faut rester dans cet objectif-là et qu'il faut faire en sorte de proposer, de porter des débats de fond et que c'est pas seulement à partir d'une déclaration de candidature que nous faisons de la politique quand on veut parler du pays.
Vous êtes le patron des députés La République En Marche. Les députés terminent un mandat compliqué, marqué par des défections, des crises, des menaces reçues. Emmanuel Macron promettait de faire découvrir une nouvelle génération en politique, un nouveau monde de députés plus en prise avec le réel. N'y a-t-il pas une déception de ce point de vue-là sur les 268 députés En Marche? Combien ont marqué? Je suis pas sûr que les Français sont capables d'en citer 10.
Mais peut-être parce qu'effectivement, vous avez une classe politique qui n'a pas 20 ans, 30 ans d'ancienneté. Mais moi, je vous assure, pour les accompagner tous les jours, qu'il y a dans ce groupe des pépites, des femmes et des hommes qui, effectivement, n'étaient pas des professionnels de la politique, mais sont capables de porter une analyse politique différente, justement, de celle des appareils politiques que nous connaissions. Il y a vraiment, au sein de mon groupe, comme au sein d'autres groupes aussi, des femmes et des hommes engagés, des femmes et des hommes différents, des femmes et des hommes qui ont su se battre sur certains dossiers et obtenir de belles conquêtes, y compris sur des sujets qui me sont chers, comme les sujets sociétaux. Cette semaine, par exemple, nous aboutirons sur une PPL sur le harcèlement scolaire. Nous aboutirons aussi sur une révision en profondeur de l'IVG dans notre pays, et c'est un sujet, vous le savez, auquel je tenais beaucoup. Et donc, oui, nous avons aussi porté des ambitions progressistes, et cette jeune génération-là a été acteur de ce changement.
David Lisnard, le maire LR de Cannes et président de l'Association des maires de France, a-t-il eu raison de donner son parrainage à Jean-Luc Mélenchon, le candidat le plus éloigné de lui, dit-il, par souci civique et pour montrer aux élus que parrainer ne veut pas dire soutenir?
Il a fait un exemple de son propre exemple, mais je l'invite plutôt, dans sa position de président des maires de France, à inviter tous les maires de France à parrainer. Le parrainage, c'est un droit.
Il l'a fait pour ça.
Non, parce qu'il a voulu faire la démonstration qu'on pouvait voter, parrainer un autre candidat que celui que l'on soutenait. Mais globalement, on voit que 75% des maires aujourd'hui ne parrainent pas. Le parrainage est un droit essentiel, fondamental. Ne pas l'utiliser est peut-être aussi un déni démocratique.
Dernière question aujourd'hui sur France Inter. Nous organisons une grande journée des candidats et des jeunes. Un face-à-face inédit entre 100 jeunes et les principaux candidats à la présidentielle. Alors Emmanuel Macron ne sera pas là. et pour cause, il n'est pas candidat. Mais un mot sur le chômage des jeunes. Il est au plus bas depuis 40 ans, c'est vrai, vous le répétez, et c'est vrai, en France. Mais le taux d'emploi des jeunes en France reste 10 points en dessous des pays de l'OCDE. Le taux d'emploi des 15-24 ans en France est de 32%. La moyenne de l'OCDE est de 42%. Il est de 49% en Allemagne et de 74% aux Pays-Bas. Pourquoi cette différence? Pourquoi notre grande faiblesse sur l'emploi des jeunes?
On voit bien que c'est un combat qui nécessite de se mobiliser totalement quand, dans la dernière année, avec toutes les difficultés économiques que nous avons connues, on a mis en place ce dispositif « Un jeune, une solution » qui consiste à accompagner de façon cousue main 4 millions de jeunes sur cette période pour aller vers l'emploi, pour aller vers une formation, pour aller vers une forme d'émancipation qui est absolument indispensable. Je pense que ce dispositif-là, nous l'avions pas fait. Ensuite, peut-être il faut revoir aussi et réfléchir à la question de l'enseignement, de la formation. On peut s'interroger. Aujourd'hui, la formation professionnelle n'aboutit pas à un taux d'emploi qui est satisfaisant. Alors moi, je pense que dans ces process d'émancipation, tout n'est pas dans l'emploi, mais beaucoup de choses est aussi dans les offres d'emploi.
Merci Christophe Castaner d'avoir été avec nous ce matin. Belle
Merci
journée
à vous.
France Inter.